vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Comme vous pouviez vous en douter, on va vous parler de ce qui s'est passé ce week-end, enfin ce week-end, dimanche. Mais bon, on va, à mon avis, être moins bon que la semaine dernière, parce que la situation est, dirons-nous, plus tendue, plus décevante quelque part, plus n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça va être n'importe quoi, je pense. Hein.
Alors oui, en plus, on a un jour de recul, donc évidemment, étant donné l'accélération du temps, l'accélération historique et l'accélération des événements dans cette société qu'on pourrait maintenant qualifier, selon les termes de Guy Debord, de hyper spectaculaire, puisque désormais on est vraiment à la minute, ne serait-ce que quasiment à la seconde, où tout change, etc. Il est évident que ce que nous dirons ici risque très certainement d'être invalidé au cours de la semaine. Et puis... on ne voudrait pas non plus se transformer en commentateur et en spécialiste, parce que ce n'est pas notre fonction. En plus, on n'a pas envie de le faire. Nous, notre point de vue, il est bien évidemment partiel. Il est surtout très partial. C'est-à-dire qu'on se situe sur un camp particulier à l'intérieur de l'espace social. Alors, évidemment, comme on est anarchiste, on râle toujours, hein. mais bien sûr que, bien évidemment, qu'on partage en partie le soulagement d'un certain nombre de personnes dans la société de ne pas avoir accédé aux responsabilités directes les élus du Rassemblement National. On ne peut que se réjouir de voir que massivement, lorsque les gens, les jeunes se déplacent, ils démontrent une société qui, dans son ensemble, défend des valeurs de fraternité, égalité. Dans son ensemble, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que la France est un pays de droite, et la France est un pays qui est structuré dans son organisation sociale et dans ses rapports sociaux par une histoire issue du colonialisme et aussi une histoire issue du racisme. Donc il y a quand même un fond, une structuration à l'intérieur de la société qui est comme ça.
C'est sûr que c'est pas une erreur.
Non.
Le RN n'est pas une erreur.
C'est pas une surprise. Faut-il rappeler ici que le meurtre raciste est une donnée récurrente à la fois de la police, certes, mais auparavant, c'était quelque chose qui était d'une banalité malheureusement affreuses dans certains secteurs de la société. Il suffit de regarder quelques films des années 80 ou de se plonger dans quelques ouvrages des années 70. C'était quelque chose comme
ça. Oui, au niveau de la guerre d'Algérie, par exemple.
La guerre d'Algérie, par exemple.
Il y a eu des exactions à Reims, hein, concernant...
C'est ça. Il y avait même des attentats devant les foyers Sonacotra. Pour ceux qui voudraient essayer de réfléchir à ça et d'aller sur quelque chose d'un peu moins pénible que de la littérature, de la scientifique, vous pouvez lire l'avant-dernier polar de Dominique Manotti qui s'appelle Marseille 73, qui raconte justement la série de meurtres racistes dans la ville de Marseille au cours de cette année 1973 où quatre travailleurs maghrébins vont être assassinés dans un court délai. Tout ça dans une stratégie évidemment à la fois électoraliste mais aussi mafieuse. Enfin bon, voilà. Donc on va quand même se contenter de ce qu'on a un petit peu. Mais pour nous, je pense que malheureusement c'est pas un sursaut, c'est plutôt un sursis.
Oui, c'est un sursis, ça me paraît évident. D'autant parce que on voit pas en quoi ces politiciens changeraient quelque chose. Il y a par exemple eu un mouvement social important sur les retraites, n'est-ce pas ? Et normalement, la gauche, dans ce qu'elle veut faire, est-ce qu'elle aura l'occasion d'ailleurs ? Parce que les gens ne connaissent pas la Constitution, y compris ceux de gauche. Hein. Ils pensent que Macron va obligatoirement demander aux ceux qui ont gagné les législatives de faire le gouvernement. C'est pas vrai. Rien n'oblige Macron à le faire. D'ailleurs, il va garder Attal et qu'Attal va rester là, à mon avis, longtemps, jusqu'à temps que la situation se décante et qu'il soit viré par une motion de censure. Et peut-être que d'ici là, et alors à mon avis, hein, je pense
que... Tu sais que Gabriel Attal a présenté sa démission.
Oui, mais ça, tu peux toujours...
Oui, il peut la refuser. Ça avait déjà été le cas.
Il a déjà refusé. Hein. Il a dit que de toute façon, on a besoin de lui pour gérer les affaires. Alors, je pense qu'il
peut y avoir une hypothèse d'un gouvernement fort, voire même autoritaire pour surpasser...
Non. Ils vont essayer de faire, et ça je pense que là-dessus... Parce qu'il faut voir que le fameux Macron, je pensais que le macronisme, on en est à être débarrassé. Eh ben non. Et non, il a rebondi là. Il a rebondi au deuxième tour grâce au Front républicain qui a permis à ces gens-là de s'en sortir... Ainsi que le LR, d'ailleurs, s'en sort aussi grâce à ça, et que le Front républicain a permis à ce que Macron puisse maintenant avoir un certain pouvoir. D'ailleurs, il va avoir un pouvoir certain, ainsi que le Sénat, puisque l'Assemblée nationale, à mon avis, avec les trois forces qu'il y a, n'aura que rien, pas grand-chose à faire. Alors, en attendant, parce que, à mon avis, la stratégie de Macron, hein, c'est de dire on va essayer de gouverner sans le RN et sans les LFI. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire un truc de centre, centriste, aussi bien en prenant jusqu'au OLR, en prenant jusqu'au PS. Et oui, il faut dire aussi que ce qui s'est passé là, quand il y a un front républicain, c'est sûr qu'au niveau de la gauche, ce sont les plus à droite qui en bénéficient toujours. La LFI n'a pas bénéficié de ce front très peu, vraiment à la marge, alors que le PS, si. Et le PS va être sollicité, pas tout de suite, mais ça va se faire. Il y a le fameux Hollande qui est là. Il va être sollicité par le centre gauche, le centre droit, pourquoi pas tout ce qui n'est pas au RN, pour faire en sorte de gouverner la France au centre. Et là, je pense qu'on va avoir des surprises, effectivement.
Oui, mais la difficulté, c'est que... Cette petite tambouille et cuisine politicienne qui démontre une nouvelle fois le degré de pourriture, qui atteint à l'intérieur de ces sphères de la gestion de l'État, ne entre en collision avec un contexte national, socio-économique et international qui malheureusement ne permet pas de faire n'importe quoi et d'être fragile. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, il y a un budget à faire passer, il y a une remontée des taux de la dette, donc l'argent qu'emprunte l'État va devenir de plus en plus cher, il y a un décrochage de la France sur l'économie internationale, il y a également une situation internationale qui est délicate, puisqu'il y a une menace de guerre. Au mois de septembre, il y a une élection aux États-Unis qui va également remodeler quelques cartes. Et là, il va y avoir quand même, ça va souffler très très fort. Et en plus, il y a, comment dire, une espèce de... il va y avoir une sorte d'opposition aussi entre des gens qui vont préparer une prochaine échéance, à savoir 2027, et qui vont donc entrer en conflictualité avec Emmanuel Macron, qui semble-t-il a un rapport au pouvoir qui est extrêmement particulier, puisque il faudra un jour peut-être écrire des psychanalyses et des psychologies, mais on a quand même des choses qui sont très 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 interrogeantes, puisque on a appris la semaine dernière qu'il avait parlé de cette dissolution à son père et qu'il y pensait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, ouais. Et qu'à l'intérieur de ça, il avait décidé de punir les Français pour pouvoir, comment dire, faire que ils n'avaient pas été assez obéissants. Et le fait d'avoir l'interview du père de Macron à l'intérieur du JDD est évidemment une opération de communication, hein. Des choses qui sont calculées, hein. C'est pas des choses qui sont spontanées. Et quand on lit cette interview, c'est assez saisissant quand même de voir quel rapport il entretient à la masse, à la multitude, à la société. Il nous prend vraiment pour des sujets, quoi. Mais ça, à la limite, on va dire, c'est de la cuisine et c'est de la saloperie politicienne à l'intérieur des instances. Moi, ce qui m'intéresse et ce que j'ai un peu plus compris, en tous les cas, c'est ce qui se passe dans le mouvement social et dans la gauche. Parce que là, la convocation, quand même, elle a été très, très importante. On se souvient qu'au cours de ces 10 dernières années, on a eu des défaites et des défaites sociales, et que on avait pris quelques engagements, notamment à l'intérieur de la social-démocratie, de dire que plus jamais on votera PS et que voilà, ah oui. C'est très bien.
C'est Ruffin, je crois, qui avait dit ça.
Et là, on a vu une certaine partie, pas tous, mais une certaine partie de ces acteurs et du mouvement social véritablement se convoquer, s'auto-convoquer et nous convoquer. Pour venir, dans le meilleur des cas, voter à gauche, voire dans le pire, voter à droite, et déployer une énergie assez remarquable, hein, puisque ce sont certainement des dizaines de milliers de personnes qui se sont investies à l'intérieur de cette campagne, mais avec, quelque part, une tutelle. Des organisations politiques qui se sont évidemment régalées d'avoir cette main-d'œuvre bon marché disponible. Faut-il le rappeler, le Parti Socialiste est un parti d'élus, de collaborateurs, et n'a pas de militants, n'a plus de militants. C'est-à-dire que potentiellement, s'il n'y avait pas ces individus qui étaient là, il n'y aurait pas eu de campagne, quoi.
Ouais.
La seule force politique qui possède une capacité d'action réelle, c'est la France Insoumise, qui a d'ailleurs bénéficié de cette force pour pouvoir... alors tu disais pas bien représenté. Ouais, somme toute, hein, y a quand même 74 élus, hein. Ce qui est vraiment pas si mal par rapport au bashing, par rapport au matraquage qu'il y avait eu là-dessus. Mais ça, c'est des choses que vous avez pu voir. Et surtout, à l'intérieur de ces élus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des profils qui sont pas des profils, on va dire, habituels. C'est-à-dire ces fameux gens issus de la société civile. Bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, la société civile. On peut dire la société tout court, hein, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a de moins important ou de plus important qu'un mec qui bosse à l'usine, qu'un type qui est dans une association, mais bon.
société civile, ça rime. Oui. Ça rime très bourgeois, quoi, quand même. Hein. Ça rime.
Ah, bah, ça rime. Bon, les politiciens, c'est une classe.
Ouais.
Hein. Donc, quand ils vont chercher des gens qui sont dans le mouvement social, et il y en a eu, et c'est la LFI qui le fait, c'est la société civile, c'est pas eux, puisque ils sont pas, ça fait pas partie de la classe.
Mais on est quand même sur une part de la société qui est relativement identifiable et segmentée. Par exemple, on n'a pas vu, à ma connaissance, mais j'ai pas la liste exacte, d'individus à l'intérieur de ces élus de gauche qui auraient été des acteurs ou des membres importants du principal mouvement social au cours de ces 10 dernières années, qui est celui des Gilets jaunes. Paradoxalement, le groupe politique qui envoie le plus d'ouvriers et d'employés, c'est le Rassemblement National. Alors, relativisons tout de suite en disant que ces ouvriers et ces employés ne sont pas forcément des acteurs de la politique du Rassemblement National. Ils peuvent être là pour l'affichage. Puisque, on l'a vu, aujourd'hui, il y a des gens qui votent Rassemblement National alors que le député n'existe pas, ne vient pas, il n'y a pas de campagne, etc. C'est vraiment une prise de position. Ici, par exemple, celui qui était au second tour dans une des circonscriptions n'habitait même pas sur la circonscription et n'a pas fait un meeting, n'a pas fait une réunion publique.
Ouais, tout à fait. Il y en a d'autres qu'on ne connaissait même pas.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir analyser et être capable de prendre en compte si on veut pas se retrouver dans 2 ans devant le même problème. Et malheureusement, il semble pas que pour le moment cette optique entre en compte, puisque tu l'as dit, le récit médiatique qui est en train de se créer, appuyé en cela par certains membres de cette classe politique, c'est celle de la Grande Coalition. Ouais. Cette fameuse coalition du cerf de la raison, des gens raisonnables qui veulent monter ensemble, etc.
Ailleurs, ils disent qu'il faut penser à l'allemande, à la belge, à la situation dans ces pays-là, où effectivement il y a des coalitions qui fonctionneraient, qui fonctionnent, et il faudrait que la France suive le même chemin.
Alors, c'est évidemment la chose qu'il faut absolument pas faire, puisque ça, c'est la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que il faut toujours rappeler que les élections, elles viennent enregistrer des dynamiques sociales, des dynamiques de classe, des dynamiques qui sont profondes. Elles créent pas les dynamiques.
Ça, non.
Si, par exemple, il y a plein de Noirs et d'Arabes qui votent pour la LFI. Et si il y a une part importante de la LFI qui est sur des thématiques antiracistes et anticoloniales, c'est parce que en 10, 15, 20 ans, en même 50 ans, cette part des enfants d'immigrés, elle a monté socialement, elle a été diplômée, elle a été dans les instituts d'études politiques, elle a pu participer et s'intégrer dans la société et à l'intérieur de son champ politique. C'est aussi pour ça que à l'intérieur de cette frange, il y a toute cette thématique-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, les principaux succès de la LFI, ils sont urbains, ils sont jeunes et ils sont diplômés.
Ouais.
Le premier parti chez les ouvriers et les employés à 56% pour les gens qui votent, hein. C'est quand même le Rassemblement National. Donc on a vraiment des structures qui sont géographiquement et socialement marquées. C'est-à-dire, moins t'es diplômé, moins tu votes, d'abord, ouais. Mais quand tu votes pour le RN. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu un marqueur. Alors,
il y a aussi le marqueur des âges.
Oui, c'est ça. Plus tu es vieux, plus tu votes pour la réaction. Mais à ce titre, tu votes pour une double type de réaction. Soit tu votes pour le Rassemblement National, parce que effectivement tu es réactionnaire et tu as un ensemble de valeurs. Soit tu votes pour Ensemble et pour les bourgeois, afin de conserver et de défendre tes privilèges. Et donc on se retrouve avec une espèce de masse de gens à l'intérieur de cet ensemble de 25-45 ans, qui eux principalement ne vont pas voter, hein, puisque on va dire entre 25 et 55 ans, c'est là qu'on a le plus fort d'abstention avec avec les moins de 25 ans. Et pourtant, ce sont des gens qui sont moteurs et qui sont, on va dire, le cœur de l'activité. C'est eux qui bossent, c'est eux qui payent des impôts, c'est eux qui achètent, c'est eux qui font marcher la société, clairement, quoi. Avec d'un côté les gens qui sont pas encore sur le marché de l'emploi, qui font des études, et les autres, les vieux, qui bénéficient de la solidarité nationale. Donc là, sur ce cœur là, malheureusement, la gauche n'est pas majoritaire, quoi. Et ce qui m'a particulièrement interpellé sur la dynamique qui a été d'amener les gens aux urnes, c'est que cette question sociale là, elle n'était pas posée. C'est-à-dire que faire une démarche de mouvement pour amener les gens aux urnes, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est interrogé. Mais il aurait pu être intéressant de la doubler d'un mouvement social, c'est-à-dire de créer, de mettre en place des structures, des réseaux, des liens qui nous permettent à la fois d'amplifier cette mobilisation, de créer du lien entre nous, mais aussi et surtout de pouvoir créer un rapport de force avec les futurs élus afin de nous permettre d'avoir un maximum de contrôle dessus.
Oh là là, tu rêves.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens pleins de bonne volonté qui ont été diffés des tracts, et à titre personnel, je serais extrêmement ravi que le SMIC passe à 1 600 €. Ça serait pas grand chose, mais ça serait formidable. Je serais particulièrement enclin à ce que la réforme du chômage soit annulée. Je serais également...
La dernière l'est, hein.
Ah non, elle est suspendue.
Elle est suspendue, oui, mais bon.
Nuance.
Ouais.
Ah ouais, 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 attends. quand même. Je serais également tout à fait ravi que les prix soient bloqués. Électricité, gaz, essence, avant d'arriver à la fin de l'hiver. Mais comment faire alors qu'on a des individus qui sont en train de disserter de leur place dans l'hémicycle et de dire qu'ils sont pour telle coalition, tel truc comme ça. Et comment faire peser, puisque la France Insoumise, qui était le soi-disant pôle de radicalité à l'intérieur de la coalition du Nouveau Front Populaire, n'est pas en mesure de s'imposer, en tous les cas, de s'imposer de force. Donc, voilà.
Oui, surtout que, bon, il faut dire aussi qu'elle est quand même mal barrée, la France Insoumise. Quand tu sais qu'ils ont quand même mis de côté 5 personnes, et sur les 5 personnes, il y en a 4 qui ont été élus, contre, justement, d'autres gens, les LFI, qui a complètement désavoué la direction de la LFI, parce que la LFI, c'est quelque chose qui est hiérarchisé comme c'est pas permis.
Alors oui, mais il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que ces 4 ou 5 individus là, accompagnés de quelques autres, étaient quand même des gens qui se réunissaient à côté pour pouvoir justement créer cette potentielle dynamique de centre et s'organiser sans la France Insoumise. C'est à la fois une alliance de gens qui sont sur des questions de carrière personnelle, sur des questions thématiques et sociales qui ne sont pas amenées, et puis de l'autre, sur des questions politiques qui sont quand même très particulières. Par exemple, cette histoire de flics, de police et d'antiracisme chez Ruffin, elle est quand même pas saine, ouais, pas interrogeante.
Ouais, de toute façon,
Ruffin... Elle est quand même assez dégueulasse, quoi.
Ouais.
Idem pour l'autre, on le voit. Des gens comme Autain qui, le jour d'après, quittent le groupe pour aller à truc. Alors, pas... Enfin, voilà, hein, c'est pas...
Eh, n'empêche, ils ont été élus.
Ils ont été élus.
Ah ouais, non, mais je veux dire, par là...
Oui, mais après, t'as vu les circonscriptions, c'est Montreuil-Lila, enfin, c'est... Oui. C'est faut une chaise pour être élu.
Ouais, puis quand tu vois là-dessus. Quand même, bon... Le personnage central de LFI, c'est reste encore et toujours le fameux politicien qui a toujours fait que ça et qui a réussi tout de même à faire en sorte que ça passe, quoi, ces idées.
Bien sûr. Mais qui est capable de produire de la théorie sur le moment ? Qui a une surface et une stratégie ? Malheureusement, sa stratégie, elle se heurte au mur de la réalité. Là, on l'a vu avec les dévistements sur le front républicain. Quel message envoyer justement à cet électorat ? C'est-à-dire que comment les gens vont être susceptibles de comprendre et de penser que la gauche et la droite, c'est pas pareil, et que Macron, etc., c'est pas... Enfin, Macron, c'est un ennemi. Les macronistes, ce sont des ennemis. Enfin, c'est pas des concurrents, c'est des ennemis, quoi, etc. Enfin, quel message ça envoie à l'intérieur de la population ? Idem si sur cette grande coalition qui va arriver, comment ne pas voir que on va pouvoir reprendre le discours de l'UMPS et du tous pourri ? Surtout si de l'autre côté il y a pas de résultats concrets, réels et tangibles. À la limite, s'il y avait un bout de coalition qui se faisait, mais qu'il y avait une pression exercée pour justement obtenir quelques conquêtes sociales, bon, ça permettrait de donner de l'argumentation, quoi. Mais nous sommes complètement désarmés par rapport à ça. Quelle puissance d'agir on va avoir sur ces gens du PS pour pouvoir leur faire rendre gorge et les obliger à voter ce qu'ils ont dit, ou en tous les cas à nous rendre des comptes.
Oui, oui, tout à fait. Quand tu sais en plus que le fameux qui a été président de la République et se dit disponible, hein, le fameux Hollande se dit disponible. Je veux dire, c'est quand même honteux, quoi. Je veux dire, ce mec-là, il devrait avoir honte. Mais non, il n'a pas honte. Non, non, parce qu'il pense qu'il représente quelque chose dans la société française. Sauf qu'effectivement, il représente quelque chose dans la société française, mais il ne représente pas un quelconque mouvement social qui irait de l'avant. C'est moins qu'on puisse dire. Il représente tout ce qui est à dégueuler au niveau de la social-démocratie, tout ce qu'elle est capable de faire, de trahir historiquement, et qui peut nous amener le fascisme. Enfin bon, ça a toujours été quand même l'une des conséquences de ce type de trahison sociale qu'ils sont capables de faire.
Et ce qui est quand même incroyable, c'est que justement, ce mouvement dit de gauche, ce mouvement qui s'est mobilisé pour le barrage républicain, a remis en selle quelque part cette bourgeoisie de gauche urbaine de type Marine Tondelier, etc., qui va servir de qui est le meilleur marchepied qu'il faut pour le fascisme et pour les racistes et le Rassemblement national. On comprend pas d'ailleurs comment, enfin voilà, dire qu'est-ce qui va changer dans une coalition macrono compatible. C'est quoi les grenades de désencerclement recyclables, lacrymo écolo, quoi, lacrymo de couleur. Enfin, c'est-à-dire la violence qui a été déchaînée contre la société et contre ceux qui travaillent et qui la font tourner au cours de ces 5 dernières années a été complètement évacué, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement inquiétant, à la limite que la saloperie et que à l'intérieur de l'État et de la machine républicaine, ça soit le truc habituel. Mais ce qui est inquiétant, c'est que devant la peur et le chantage au Rassemblement national, il y a eu vraiment cette canalisation et cet engagement sans trop de regard critique. Alors, pas question de dire que c'était facile, parce qu'on était vraiment pris entre deux feux. Les gens ont largement de quoi flipper. Déjà qu'ils flippent avant, flipper avec les trucs de la société. Mais il aurait pu y avoir cet engouement, cette activité, avec le développement d'un discours clair et basé socialement. C'est-à-dire que malheureusement, dans les périodes de crise et dans les périodes où il y a une inadéquation entre les modes de représentation et ce qui est donné dans la société, eh ben, il faut qu'il y ait des moments de rupture. Alors, ces ruptures, c'est pas forcément le grand soir au sens où il y a des barricades dans la rue et il y a des soviets. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une représentation imagée ou romantique, mais il faut qu'il y ait des cassures, il faut qu'il y ait des ruptures, il faut qu'il y ait de la conflictualité et il faut qu'il y ait de l'affrontement. Cet affrontement, il peut être à l'intérieur de cadres, mais il faut qu'il soit assumé. Or, toute notre position... depuis quelques mois, c'est justement d'abandonner cette question de la rupture et de la conflictualité. Moi, j'ai été très frappé sur les rassemblements auxquels j'ai participé de voir l'absence de tracts et de prise de parole. C'est comme si les gens étaient là faute de mieux, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Et puis, finalement, on n'avait pas grand-chose à dire, ou alors on avait peur de le dire, quoi. De toute façon, il ne pourra pas y avoir de solution et on ne pourra pas se débarrasser du Rassemblement national si on ne se débarrasse pas d'une partie de la bourgeoisie. Et de la bourgeoisie.
Tout à fait.
Ça, c'est clair. Voilà. Je crois que... c'est quand même très très inquiétant en plus sur la vitesse quand tu vois par exemple là je regardais les déclarations et les écrits de Marine Tondelier qui dit pas besoin de fermer la porte quand celle-ci n'a pas été ouverte. Gabriel Attal n'a jamais lancé l'idée d'une grande coalition. Notre cap est clair, celui de la justice sociale et celui de la justice environnementale, quoi. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire « Jamais nous ne saisirons une porte ouverte par Gabriel Attal ou les autres Marconis, qui sont d'ailleurs aussi responsables de la montée du RN que le RN, et qui sont aussi dégueulasses que le RN quand ils ont fait du mal aux jeunes, etc. etc. » On a un programme, on le défend, etc. Et si les gens qui sont pas contents, eh ben, ils vont ne siègent pas avec nous, et ils vont faire autre chose, et ils tomberont grâce aux motions de censure, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a une incapacité chez ces gens-là à assumer une quelconque conflictualité de quoi que ce soit, qui est, en fait, c'est normal, puisqu'ils passent leur temps ensemble. Donc, la simple conflictualité, c'est juste de parler fort, ou de payer l'addition à la fin du
coup. C'est une classe, hein, les politiciens, c'est clair.
On va respirer deux secondes et puis on revient.
Pause musicale. Thank you. je crois que ça serait bien qu'on nous dise quel était ce morceau de musique, je ne sais pas. Jean-Mi, le morceau de musique qu'on a entendu, c'était quoi ?
Nous dit voilà. Oui, alors qu'est-ce qu'on disait ?
Le morceau de musique qu'on a entendu à l'instant, oui. C'était quoi ?
Ah, c'est Ezekiel, c'est l'excellent, c'est un vieil album d'Ezekiel. Il me semble que le titre... qu'est-ce que j'ai mis ? C'est Requiem pour un Dream, voilà, c'est ça. C'est une reprise de la thématique de Requiem pour un Dream. For a Dream, voilà. Donc nous parlions effectivement de décomposition sociale et de la... en un seul mot ou en deux.
Alors, moi, je pensais quand même que par rapport à ce qui s'est passé là, il y a quand même des gens qui sont capables de se faire des illusions encore sur les promesses électorales. Tu parlais tout à l'heure du SMIC à 1600. Bon, il y a pire. Il y a le fait qu'ils nous promettent normalement, la gauche promettait normalement de revenir en arrière concernant la réforme des retraites. Ça ne se fera pas. Il faudrait une nouvelle loi pour... et on ne voit pas, avec les élus qu'il y a eu là, on ne voit pas une nouvelle loi apparaître. C'est évident.
Non. Je crois que à mettre en relation aussi par rapport à notre émission de la semaine dernière, par rapport à la description qu'on faisait du Front populaire dans sa délimitation historique et politique, il faudra, on aura l'occasion certainement d'y revenir, mais de réécrire, vraiment analyser ce qui est devenu l'outil barrage, ce qui est carrément devenu une idéologie en soi qu'on pourrait appeler le barragisme, quoi, qui en fait presque logiquement devenu quelque chose de la collaboration avec le macronisme.
D'ailleurs, Macron, il est intelligent, je pense, à ce niveau-là. Il a réussi à faire en sorte de se retrouver, finalement, alors que tout le monde pensait que le macronisme était fini. Eh ben non, mais le macronisme ne peut pas finir, puisque c'est la bourgeoisie, déjà, c'est important de le dire, mais aussi c'est le centrisme. Le centrisme dans toutes ses composantes puantes, historiques. Ça va de des chrétiens à des gens qui... voilà, aux francs-maçons, etc. C'est vraiment des gens qui n'ont pas... ça n'a rien à voir avec le social, quoi. C'est rien à voir.
Oui, et c'est vraiment devenu un outil structurant de la vie politique française. C'est pour ça qu'on pourrait le qualifier de isme, de barragisme. C'est-à-dire que le barragisme est depuis des années le simple fait de voter pour un candidat qu'on n'aime pas ou qu'on n'apprécie pas ou auquel même on est opposé pour contrer le RN, quoi. C'est devenu une stratégie usée jusqu'à l'os par la gauche molle par le macronisme pour terroriser et sidérer l'électorat de gauche face à un RN complètement au épouvantail. Enfin, faut-il le rappeler, depuis 25 ans, 22 exactement, si je compte précisément, cet outil est utilisé pour faire élire des individus dont on n'en a clairement rien à cirer et qui ne correspondent pas aux aspirations réelles de la majeure partie de la société française. Sauf Macron quoi. 1, Macron 2, etc., Chirac, etc., etc. Quoi.
Tu parlais de 2002 tout à l'heure, enfin, tu faisais allusion à ça. Faut dire qu'en 2002, le père Le Pen, il avait 20%. Hein? Maintenant, on en est pas à 20%, on en est au moins au double, voire plus. Donc, c'est quand même une stratégie qui est complètement folle, complètement suicidaire, quoi. C'est-à-dire, on risque effectivement d'avoir un jour le Front National au pouvoir. Peut-être qu'en 2027, c'est ce qui va se passer. Et on ne voit pas en quoi ceux qui sont au pouvoir actuellement, ceux qui ont été élus là, vont faire en sorte que ça ne se fasse pas. Il n'y a aucune dynamique, il n'y a aucune attaque de la bourgeoisie, il n'y a aucune attaque par rapport au système, quoi. Ces gens-là sont vraiment pour qu'il ne se passe rien.
C'est ça, tout à fait. Et il est évident que s'il y a une coalition, la coalition qui se prépare, ça signifiera une victoire massive et certaine de l'extrême droite à court terme. C'est évident. C'est évident. Évident parce que cette fois-ci, les derniers bouts de gauche seront complètement annihilés, quoi. Alors, il faut bien intégrer que l'antifascisme et l'antiracisme, c'est pas une pratique électorale. Elle se limite pas au bulletin de vote, même si c'est, comment dire, ces analyses-là. Quand tu es fait dans des périodes, sont parfois jugés un peu durs par certains de nos camarades en raison de la peur, hein, tout simplement, hein, et de l'effet de sidération qui fonctionne un plein et qui impose de taire toute critique, toute pensée, ou simplement juste une simple analyse. C'est même pas forcément avoir soit mais essayer de d'analyser les choses pour malheureusement se concentrer sur l'unique chose qu'on devrait faire, c'est-à-dire voter pour n'importe qui ou pour n'importe quoi du moment que ça soit pas le RN, quoi. Mais ça, c'est vraiment comment dire se restreindre au cadre idéologique qui nous sont donnés et qui nous sont donnés surtout pas par nous, mais par l'idéologie dominante. Faut-il voir à quel point les assignations à aller voter contre le RN ont été faites de la part de groupes qui d'habitude n'ont absolument rien à foutre. Faut-il, par exemple, ce qu'on appelait auparavant le quotidien de référence, c'est Le Monde, c'est le quotidien de la bourgeoisie raisonnable, hein. La référence, c'est surtout pas ça, quoi. Qui, depuis 4 ou 5 jours, dans ses éditoriales, nous a expliqué qu'il fallait absolument voter contre le RN parce que c'était vraiment dégueulasse. Et comme par hasard, on ressortit les brebis galeuses qui se trouvaient à l'intérieur du Rassemblement National, voire les ingérences russes et étrangères qu'il pouvait y avoir à l'intérieur des comptes. Ce travail d'enquête ne pouvait pas avoir été fait auparavant. Pourquoi a-t-il fallu attendre cette dernière limite pour pouvoir avoir cette assignation ? Et comment ne pas voir que cette assignation, elle est aussi socialement marquée et déterminée ? Et voir comment elle est reçue, justement, par ces gens des campagnes et de la ruralité qui, eux, comptent combien d'essence ils peuvent mettre pour pouvoir gérer leur truc et qu'on est à laquelle on est au centime. Et c'est ça qui est terrible dans ce qu'on n'a pas vu de la part des gens qui ont défendu ce front républicain, c'est-à-dire qu'on n'a pas été se porter vers ces individus qui votaient Rassemblement National ou simplement qui ne votaient pas, et pour leur expliquer que en fait on a beaucoup plus de choses en commun qu'on pourrait ne le croire entre les habitants de ces quartiers racisés et les gens qui habitent dans le pourtour et qui font 5 heures de boulot par-ci, 5 heures de boulot par-là, qui n'ont pas accès à des toubibs, qui mettent les gamins au bus à 7h moins le quart du mat, qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Et puis en plus, expliquer aussi qu'on a beaucoup, beaucoup de d'espoir et comment dire, de capacité à s'organiser comme on a pu s'organiser pendant le mouvement des Gilets jaunes, que finalement la démocratie parlementaire, la proposition représentative parlementaire, c'est quelque chose d'extrêmement récent dans l'organisation des sociétés. Ça fait à peine un siècle et demi. Rosa Luxembourg, qu'on aime bien citer ici, rappelait que le parlementarisme, loin d'être un produit absolu du développement démocratique, du progrès de l'humanité, est au contraire une forme historique déterminée de la domination de classe, de la bourgeoisie, et ceci, comment dire, n'est que le revers de la domination de la lutte contre le féodalisme et le mouvement social. Le parlementarisme bourgeois, c'est qu'une forme vivante qui restera aussi vivante que lorsque tant que durera le conflit entre la bourgeoisie et la classe laborieuse. Il faut des outils, il faut des éléments pour pouvoir être élu à l'intérieur de cette petite chambre qui ne sont que 577. Nous avons pu expérimenter d'autres formes de représentation. Reprenons les assemblées des assemblées sur les gilets jaunes, avec évidemment toutes les défauts que cela qu'on comprendrait, mais qui étaient des formes d'organisation qui pouvaient très bien être des formes d'organisation politique ou des formes de représentation politique. Ce qu'il faut, c'est d'abord effectivement poser les cadres de ce qu'on veut faire, de la finalité des outils qu'on veut se donner, et après les outils, on les fabriquera ensemble. Je crois que là-dessus, on a aussi vraiment une dénonciation à mettre en avant, au-delà de la nécessaire égalité qu'on doit dire et qui doit être démontrée entre effectivement les habitants des villes et les habitants des campagnes. On avait aussi la possibilité d'accéder à une critique fondamentale du système de représentation en montrant et en disant que cette représentation-là, cette forme-là, elle est arrivée vraiment au bout de ce qu'on pouvait faire, quoi, et que la démocratie réelle, elle pouvait être inventée avec l'ensemble des gens qui étaient concernés. Autrefois, on parlait de la République des conseils, mais c'est pas forcément ces mots-là. On trouvera bien les mots, les mots qu'il faut, quoi. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que les liens qui ont été créés à l'intérieur de ces mobilisations et la joie et l'espoir qu'a pu renaître au cours de ce week-end et des jours qui viennent, il en restera quelque chose, et que il y ait un mouvement de masse dans les villes, dans les banlieues, dans les faubourgs, dans les villages, qui torpille la détresse, qui transforme l'aigreur, qui transforme la rage et qui
réveille. Parce que là, je crois que bon.
Ouais, on ne sait pas ce qui peut se passer, un événement particulier, une trahison, un événement, une étincelle peut mettre le feu. Peut mettre le feu à la plaine.
Ça, c'est vrai.
On ne sait pas comment ça peut se passer. Mais ce qui est vraiment important, de mon point de vue, hein, je conclurai là-dessus, c'est que, voilà, après le vote, il va falloir être temps de faire de la politique.
Ouais, tout à fait.
Donc après le vote, le politique. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, bon, je l'ai pas vu, je l'ai pas beaucoup vu en tous les cas. J'ai entreaperçu en tous les cas dans les échanges que j'ai pu avoir. J'espère que ailleurs ça y a d'autres choses, mais bon, voilà.
Ah, moi, je pense pas, parce qu'en plus, quand tu regardes un peu, bon, à Reims, il s'est rien passé, mais ça, c'est pas nouveau. Il a fallu quand même, faut attendre 400 000 habitants pour que ça bouge un peu. C'est généralement les villes, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, les villes votent à gauche maintenant. Toutes les villes, quasiment, de plus de 400 000 habitants votent à gauche. Peut-être pas Nice, hein, c'est clair, à part Nice.
C'est pas une ville, c'est un EHPAD.
Mais ça veut dire aussi que, bon, que va-t-il se passer? Il y a quand même des, comment dire, j'ai l'impression qu'il ne va rien se passer du tout. Ça va être le... À moins qu'il y ait des mouvements sociaux, et ça, on ne peut pas le savoir, je ne vois pas ce qui peut se passer. Parce que ces gens-là nous ont foutus dans une impasse. Il n'y a pas de sortie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui sont faites qui ne sont jamais tenues, évidemment. Ils le savent, pourtant. On ne promet pas de faire en sorte que maintenant... il y ait un contrôle sur les prix en mettant la main dans les poches du capital, quoi. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas et ça ne se fera pas. Il faudrait un sacré mouvement social pour faire en sorte qu'il y ait un bouleversement. Mais c'est ça, nous, qu'on voudrait qu'il y ait. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement social, qu'on aille chercher le fric là où il est, parce que ce fric existe.
Et oui, mais la crainte, c'est que comme l'ordre tire sa légitimité de son déroulement propre, c'est-à-dire que désormais, vu qu'il y a eu les élections et que, rappelons-le, il ne peut pas y avoir de dissolution
d'ici un an,
alors la légitimité et la force de la loi, elle est dans le camp de l'État et de l'ordre. Et là, ça risque d'être particulièrement violent et particulièrement autoritaire, puisque on va dire que l'expression de la masse et l'expression de la société a été bornée du 30 juin au 7 juillet, et que désormais c'est terminé, et que les choses sont faites entre professionnels, et que nous n'avons pas à nous en mêler. Et donc,
d'autant plus qu'on est passé à plus de 67%
c'est
de votants.
C'est ça. Donc, on va dire,
ces
gens-là sont légitimes, contrairement aux huluberlus qui décideraient d'aller manifester. Donc, la puissance de la répression et de la réaction risque d'être particulièrement forte. Il y a peut-être quand même un espace qui nous permettrait, peut-être une petite porte qui nous permettrait de régler le problème, puisqu'on pourrait avoir une certaine, c'est que il y a un gros problème quand même pour les gens qui sont à l'Assemblée nationale et qui c'est Macron, puisque c'est quand même quelqu'un qui détient un certain nombre de manettes du pouvoir, et que il y a quelque temps ce Macron disait qu'il vienne me chercher. Pendant les gilets jaunes, il a eu l'occasion d'avoir peur et de sortir le souffle du mouvement social sur sa nuque. Je crois que c'est quelque chose qui va pouvoir être vraiment intéressant de voir, puisque à la fois il concentre sur lui une haine, vraiment. Un véritable dégoût, et en plus il est certainement pas une partie de la solution, mais beaucoup plus une partie du problème, et qu'il reste potentiellement 2 ans à faire. Alors une démission du président, c'est pas quelque chose d'impossible. Faut-il le rappeler, en 1924, pour ceux qui ont eu des longs cours d'histoire contemporaine sur l'histoire de la démocratie parlementaire et de l'installation de la République à l'intérieur du système politique français, en 1924, on a un regroupement qui s'appelle le cartel des gauches, dans lequel il n'y a pas le Parti communiste, mais il y a les radicaux socialistes, il y a un bout de la SFIO, il y a d'autres choses, etc., etc. Et le président de la République, c'est Alexandre Millerand. Alexandre Millerand, c'était un socialiste qui a trahi, qui était auparavant très très dur, et qui ensuite a trahi pour pouvoir être élu. Le président de la République est élu au suffrage indirect à l'époque. Ouais. Il est élu et il est donc bien installé sur ce truc de la présidence de la République. Et c'est chez ses anciens camarades, il développe, il a une profonde haine contre lui, une volonté de revanche et de recul. Et évidemment, sa politique n'est pas du tout appréciée par le cartel des gauches. Et donc le cartel des gauches, sans être capable de créer un gouvernement, va systématiquement voter contre les gouvernements qui sont présentés et proposés par Alexandre Millerand et la présidence de la République. Il va faire tomber plus de 18 gouvernements en à peine 10 mois. Et en conséquence, devant cette impasse, Alexandre Millerand va décider de démissionner pour pouvoir permettre la constitution de véritables institutions et de véritables gouvernements. Donc c'est déjà arrivé, c'est un centenaire. Je sais que visiblement on aime bien les anniversaires en France, ça serait pas mal d'essayer de recommencer.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! 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 Protéger le climat, et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net. Run them jewels fast, run them jewels fast, run them, run them, run them, run them, run them.